Ce sera l'une des plus furieuses batailles de la Seconde Guerre mondiale. 80 000 Marines prennent d'assaut une île japonaise située à un emplacement stratégique.
On ignorait à quel point cette opération était dangereuse. On ne se doutait de rien. C'était comme si on arrivait dans un stand de tir.
Les Marines font face à une très forte résistance. Ils devront prendre tous les risques imaginables pour vaincre un ennemi tyrannique qui a juré de les tuer et de ne jamais rendre les armes.
On a subi d'énormes pertes. C'était un véritable enfer.
La plupart de ces Marines n'ont pas plus de 20 ans. Plusieurs d'entre eux ne reviendront jamais des plages de sable noir d'Iwo Jima et paieront de leur vie cette victoire américaine. Le 7 décembre 1941, les Japonais lancent une attaque non provoquée sur la flotte navale américaine amarrée à Pearl Harbor. Le président Roosevelt parle alors au nom de la nation américaine.
No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory.
Un an auparavant, l'Empire du Japon a joint ses forces à celles de l'Allemagne d'Hitler et de l'Italie de Mussolini. Ensemble, ils forment les nations de l'Axe. Le Japon a attaqué la base navale américaine pour établir son hégémonie dans la région. Les États-Unis déclarent alors la guerre au Japon. Et les forces américaines s'emparent d'un chapelet d'îles Nippon. Les Américains se rapprochent de plus en plus de l'archipel du Japon lui-même. Ils établissent des bases navales sur ces îles et le 24 novembre 1944, ils entament une imposante opération de bombardement sur Tokyo. Pour les Américains, l'île d'Iwo Jima est importante d'un point de vue stratégique. Située à mi-chemin entre Tokyo et les bases navales américaines de Saipan, elle représente un maillon essentiel dans la conquête du Japon. Pour leur part, les Japonais accordent une importance capitale à cette île, qui est la première ligne de défense de leur mère patrie. Sur cette île volcanique de 20 km², ils ont installé des radars pour détecter les bombardiers ennemis et posté d'importantes quantités de chasseurs pour intercepter l'ennemi et le détruire. Plus de 100 équipages américains de Boeing B-29 périssent au cours des affrontements. Les avions japonais détruisent aussi les navires américains. Pour les États-Unis, il n'y a pas d'autre solution que d'envahir l'île. Aux aurores, le 18 février 1945, les forces américaines commencent à bombarder Iwo Jima autant depuis la mer que des airs. L'objectif des militaires américains est d'établir une tête de pont sur l'île pour permettre le débarquement de 80 000 Marines. Le soldat de première classe, Jim Norton, âgé de 19 ans, se prépare pour l'invasion.
C'était sans doute l'endroit du Pacifique où le bombardement avait été le plus important. Le commandement croyait qu'on prendrait le contrôle de l'île en 3 ou 4 jours.
Les Américains à bord des navires ignorent que les obus lancés sur les défenses japonaises n'ont causé que peu de dommages. Kiyoshi Ando était alors aspirant de marine dans les forces japonaises.
On nous avait ordonné de creuser des abris souterrains dans lesquels on se cachait. On nous bombardait sans relâche, mais on a pu résister aux attaques.
Les Japonais ont creusé plus de 25 km de tunnels reliant des emplacements de tir fortifiés partout dans l'île. À l'intérieur du mont Suribachi, les tunnels descendent dans le sol à une profondeur équivalente à un immeuble de 7 étages. On y trouve un hôpital fortifié et un centre de commandement. Le lieutenant général Tadamichi Kuriyabashi de l'armée impériale japonaise commande ses hommes depuis l'intérieur du mont Suribachi. Ses soldats étant inférieurs en nombre aux soldats américains et leurs armes ne faisant pas le poids devant l'arsenal ennemi, il sait qu'il ne sortira pas victorieux de cette bataille. Sa stratégie est simple et brutale. Il veut tuer le plus de Marines possible. Il ordonne à chacun de ses soldats de tuer au moins 10 Américains. S'ils n'y parviennent pas, ils mourront dans le déshonneur. Le sergent-maître japonais Kei Kanai a alors 21 ans.
Mourir au combat était considéré comme un honneur. Nous étions prêts à donner notre vie pour un aussi courageux commandant.
Les soldats japonais stationnés à Iwo Jima ne peuvent pas compter sur l'aide de leurs forces navales et aériennes. Tous les navires de guerre et les avions de chasse japonais ont été envoyés à une île voisine en prévision de l'affrontement inévitable entre l'armée japonaise et les Américains à Okinawa. Les hommes qui sont restés à Iwo Jima ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour défendre l'île. Les Américains comptent faire débarquer 3 divisions de Marines sur Iwo Jima. Le 2/3 des hommes se dirigera ensuite vers le nord, où se trouvent des terrains d'aviation. Quant au 28e régiment de la 5e division des Marines, il a reçu l'ordre de percer la ligne de défense japonaise au sud et de prendre le sommet le plus élevé de l'île, le volcan endormi du mont Suribachi. Le soldat de première classe, John Douglas, n'a alors que 19 ans.
J'ai encore dans la tête des images très nettes de cette montagne. Et je peux vous dire que j'ignorais si on parviendrait à la gravir. Je me disais que ça serait extrêmement difficile.
Clay Coble, un autre soldat de première classe, est aussi âgé de 19 ans.
On n'a jamais discuté de la possibilité d'un échec. On allait débarquer sur l'île et les Japonais se rendraient. On nous a dit, « Hey les gars, désolé de vous dire ça, mais vous allez devoir les tuer. » Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas penser qu'on devait tuer ces soldats. Mais si on ne le faisait pas, c'est eux qui nous tueraient.
L'invasion est prévue pour le lundi 19 février 1945.
Dans le navire, on aurait pu entendre une mouche voler tellement il y avait de la tension. Dieu seul savait ce qui nous attendait et si on serait blessé, voire tué. On ignorait comment ça se passerait. Personne ne parlait pendant l'attente. L'ordre est alors venu de nous rendre au poste de débarquement. Le sergent a dit, ça y est, on y va. On a enjambé le bastingage et on a commencé à descendre. On aurait préféré remonter, mais il fallait descendre. Tout aurait été préférable à ça, mais c'était les ordres. On avait reçu un entraînement et on devait obéir.
L'invasion débute à 9 heures quand une première vague de péniches atteint le rivage. Pour les Japonais qui attendent sur l'île, il n'est pas question de se rendre.
J'ai ordonné que l'on donne 2 grenades à tous les hommes. La première grenade était destinée à l'ennemi et la seconde permettrait à nos hommes de se suicider s'ils étaient grièvement blessés ou s'ils allaient être capturés.
Quand la première vague d'Américains débarque sur l'île, les forces japonaises les accueillent avec des tirs d'obus et de mitrailleuses.
Les Américains ont été décimés par nos roquettes, nos mortiers et nos pièces d'artillerie. Les pertes infligées aux Américains lors de ce débarquement étaient énormes.
Les hommes sur la plage avisent le navire de commandement que la résistance des Japonais les a cloués sur place. La compagnie H du 28e régiment ne pourra débarquer sur l'île qu'une fois la plage libre. À bord de leur péniche de débarquement, les hommes tournent en rond dans la mer, sans aucune protection contre le feu ennemi et les tirs d'obus. Le caporal Wesley Plummer a 20 ans.
J'ai lu le 23e psaume à quelques reprises. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène vers des eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le vaste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne m'en suis jamais séparé depuis que j'ai quitté Iwo Jima.
Trois heures après la première vague de débarquement, les hommes finissent par faire une percée. On donne enfin l'ordre à la compagnie H de débarquer.
On n'avait pas le choix, il fallait y aller.
Le caporal Charles Johnson a alors 21 ans.
Dès que les péniches de débarquement ont accosté et que les moteurs se sont arrêtés, j'ai vu l'horreur sur la plage et je me suis dit, bon sang, c'est l'enfer, ça va être effroyable.
Les Marines ont reçu un entraînement de quelques milliers d'heures pour ce jour. Quand ils débarquent sur la plage, leur entraînement prend le dessus.
On s'est tous dispersés comme on avait appris à le faire. Il ne faut jamais rester en groupe. C'est déjà horrible quand un soldat meurt. On veut éviter qu'il en meure 4 ou 5. Il fallait quitter la plage rapidement parce que les Japonais avaient déjà leur artillerie et leur mortier dirigés sur nous. Ils n'avaient qu'à tirer. Il fallait qu'on quitte la plage au plus vite, sinon ils nous décimeraient.
Pour quitter la plage, les Marines doivent d'abord surmonter la première des imposantes défenses naturelles d'Iwo Jima.
On devait escalader un talus de sable d'une hauteur d'environ 5 mètres.
Le sable volcanique rend la progression des Marines très ardue.
C'était un sable épouvantable, au grain grossier et glissant. On s'y enfonçait pratiquement jusqu'aux chevilles, ce qui nous empêchait de courir.
Comme les Marines qui les ont précédés, les hommes de la compagnie H sont piégés sur la plage. Les Japonais les abattront à coup sûr s'ils ne parviennent pas à quitter cette plage de sable noir. Il est midi, le 19 février 1945. La compagnie H du 28e régiment des Marines vient de débarquer sur les sables volcaniques d'Iwo Jima. C'est la première invasion américaine en sol nippon et les Japonais qui défendent l'île sont prêts à mourir plutôt que de donner un seul mètre de terrain aux Américains. Avant la fin de cette première journée, la mission des hommes de la compagnie H et des autres soldats du 28e régiment est de parcourir près de 700 mètres en territoire ennemi à découvert. Quand les hommes arrivent sur la plage, ils ne franchissent que quelques mètres avant d'être pris sous le feu nourri de l'ennemi. Avec les Japonais devant eux et un amoncellement de débris derrière eux, les soldats n'ont guère de chance de s'en sortir. Les Japonais ont détruit presque tout l'équipement lourd dont les Marines comptaient se servir pour prendre l'île. Le soldat de première classe, Bill Nichols, n'a alors que 19 ans.
On pouvait sentir à plein nez l'odeur de poudre à canon. Quant à ce qu'on pouvait voir, disons que c'est le genre de spectacle dont on préfère ne pas parler. Certains hommes avaient le corps complètement déchiqueté, et d'autres étaient blessés et demandaient de l'aide.
Les seuls mots qui me sont venus à l'esprit en voyant cette plage ont été « l'enfer sur la terre ». Je ne peux pas décrire cette scène autrement, c'était une vision d'horreur.
Parmi les milliers de Marines blessés et déchiquetés par les tirs des Japonais, brancardiers, secouristes et médecins tentent de sauver des vies au beau milieu du carnage. Le lieutenant Thomas Brown, médecin dans la marine américaine.
Tous les hommes de mon bataillon que j'ai vus sur la plage étaient morts. Ce n'est qu'une minute ou deux plus tard que j'ai entendu un brancardier dire « D'où Jésus, aidez-moi.
Oh, Jesus, help me.
Il soignait un marine blessé, dont le crâne avait partiellement éclaté. J'ai dit, « Roy, je ne suis pas Jésus, mais je vais t'aider. » On a mis un bandage sur sa tête, mais on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Il lui a donné de la morphine. L'homme allait bientôt mourir, et on le savait. Quelques minutes plus tard, il a poussé son dernier soupir.
Les Marines croyaient que le pilonnage des mois précédents avait détruit les défenses de l'ennemi. Mais lors du débarquement, ils ont été accueillis par des tirs nourris provenant des bunkers creusés à même les flancs du mont Suribachi. Les hommes de la compagnie H doivent continuer d'avancer. Il leur faut quitter la plage pour éviter d'être massacrés. Malgré le tir nourri de l'ennemi, ils escaladent le talus et se retrouvent sur un plateau exposé de toutes parts.
Quand on a réussi à grimper sur ce talus, c'est là que tout a dégénéré. Les hommes tombaient comme des mouches sous les tirs de mitrailleuses, des tirs d'obus et de tout le reste.
Il est impossible pour les Marines de se battre contre un ennemi invisible.
Je n'ai pas vu un seul Japonais pendant tout ce temps où on cherchait à quitter la plage.
Ils pouvaient nous voir, mais pas nous.
C'était extrêmement déroutant.
Les Japonais ont littéralement transformé l'île en une forteresse souterraine. Plusieurs kilomètres de tunnels relient des bunkers et des cavernes partout sur Iwo Jima. Ces tunnels donnent aux Japonais un avantage important. Ils peuvent procéder à des attaques surprises. L'aspirant de marine japonais Seiya Oide.
Le Japon disposait de moins de 21 000 hommes sur Iwo Jima, alors que les États-Unis en avaient beaucoup plus. Les Américains avaient davantage d'armes et de réserves. Mais Iwo Jima devait être défendu à tout prix par le Japon. C'était le rempart de notre pays.
Grâce à leur système de tunnels, les Japonais peuvent prendre les Marines en embuscade où qu'ils soient. Même si les Marines se déplacent, ils risquent en permanence d'être piégés par le feu ennemi. Ils ne peuvent se mettre à l'abri que dans les immenses cratères créés par les bombes larguées.
On cherchait un trou dans le sol et on sautait dedans. Et quand on croyait qu'on y était resté assez longtemps, on en ressortait et on en trouvait un autre. On faisait tout pour se protéger tout en continuant d'avancer.
Les hommes essaient d'avancer sous le tir nourri de l'ennemi. Le soldat de première classe, Jim Norton, a réussi à quitter la plage pour se faire ordonner d'y retourner.
Go back and get Wilson's gear.
Il est messager assigné aux communications entre les commandants. Mais son escouade a été isolée du reste du régiment sans équipement radio.
Comme Wilson, l'autre gars de communication, avait été abattu en débarquant, mon lieutenant m'a demandé d'aller chercher son équipement.
Quand Norton atteint la plage, il n'est pas prêt à la triste vision qui s'offre à lui.
On a du mal à croire que tout ça est bien réel. Quand je l'ai vu, j'ai compris qu'il était mort. C'est une image qui m'est revenue en tête de nombreuses fois par la suite. Je n'ai même pas réussi à trouver l'équipement. C'était la pagaille. Les gars me criaient de ficher le camp de là. Je devais repartir et j'étais obligé de laisser Wilson derrière moi. Je me disais que quelqu'un s'occuperait de son corps. Ce moment était très difficile à vivre.
Quand le soleil se couche sur le premier jour, la compagnie H a parcouru l'île dans sa largeur, à 100 mètres près. Plus de 2000 Marines ont été tués ou blessés. Les autres sont épuisés. Personne n'avait prévu une telle résistance de la part des Japonais.
Après le premier jour de combat, on se disait tous que ça ne durerait pas que 5 jours. Ce serait beaucoup plus long.
Les Marines se préparent à passer leur première nuit sur Iwo Jima, mais ils ne pourront pas dormir, malgré leur extrême fatigue.
Généralement, quand on quitte la plage, on se cache dans les buissons et parmi les arbres, et ça nous protège un peu. Mais sur Iwo Jima, on ne pouvait se mettre à l'abri qu'en se creusant des trous.
Les patrouilleurs profitent de l'obscurité pour étudier les défenses japonaises. Ils ignorent qu'à chacun de leurs pas, ils marchent littéralement sur la tête de l'ennemi. Cachés dans leur vaste réseau de tunnels, les Japonais pourraient frapper n'importe où et à tout moment. Le 19 février 1945, pendant que les navires de la marine américaine bombardent Iwo Jima, les Japonais ripostent avec un imposant tir de barrage. Les Marines qui ont débarqué sur l'île sont pris dans le feu croisé. Le soldat de première classe, Jim Norton.
Le bruit au-dessus de nous était assourdissant. On aurait cru qu'un train de marchandises arrivait. Bien entendu, ça explosait de toutes parts. Et je crois qu'on pensait tous que c'était la fin. On croyait qu'on allait mourir parce que la situation était catastrophique.
Dans l'obscurité, les Japonais ont un net avantage sur les Américains. Ils ont creusé des trous d'où ils peuvent aisément tirer. Ces trous sont reliés les uns aux autres par un vaste réseau de tunnels. Ainsi, ils peuvent facilement prendre les Marines en embuscade. Comme les Japonais sont moins nombreux et ont une puissance de feu inférieure à celle de l'ennemi, ils ne peuvent que compter sur l'effet de surprise pour espérer vaincre les Américains. Mais les Marines ont appris à se méfier des stratagèmes japonais et ils évitent de tirer la nuit, même s'ils croient avoir aperçu un soldat ennemi. Bill Nichols, alors soldat de première classe.
On nous avait dit de ne pas ouvrir le feu le soir, à moins d'être absolument sûr que c'était l'ennemi. Parce qu'on aurait pu tuer l'un des nôtres et qu'on aurait également indiqué aux Japonais quelle était notre position.
Nicholas s'est armé d'un fusil automatique Browning qui peut tirer jusqu'à 450 projectiles à la minute. C'est une arme puissante qui fait de lui une cible de choix pour les tireurs d'élite japonais.
Si je me servais de ce Browning au beau milieu de nulle part, je ne ferais que m'attirer des coups de feu.
Where's it coming from?
I don't know. I can't see him. Cover me! I'm not gonna shoot at them. I can't see him.
Le soir, pour différencier leurs alliés de leurs ennemis, les Marines utilisent des mots de passe. Ils choisissent des mots aux sonorités inexistantes en japonais.
C'était soit des noms de voitures ou d'arbres. C'était des mots comme Lincoln, parce que les Japonais ont du mal à prononcer les L, ou encore Maple, pour les mêmes raisons.
Quand le soleil se lève enfin le lendemain matin, le soldat de première classe, Jim Norton, découvre qu'il doit sa survie à la vigilance d'un de ses compagnons.
Juste à l'extérieur de notre trou de tirailleurs, à moins de 2 mètres, il y avait un Japonais mort, armé de plusieurs engins explosifs. L'un de nous a tué cet homme avant qu'il nous tue. C'était comme ça toutes les nuits, et nos nerfs nous jouaient de vilains tours. Vous croyiez les voir, et pourtant il n'y avait personne. Mais souvent ils étaient là, et vous ne les voyiez pas.
Ce matin-là, la compagnie H du 28e régiment doit commencer l'assaut sur le flanc droit du mont Suribashi. Les hommes attendent d'abord que la marine américaine affaiblisse les positions japonaises. l'aspirant de marine japonais Kiyoshi Endo observe de son côté les bombardements.
Les navires de guerre américains étaient placés en rangée. Quand une rangée avait terminé son pilonnage, une autre rangée de navires arrivait depuis le sud. Les bombardements se poursuivaient sans répit.
Les Japonais ripostent par un imposant barrage d'artillerie. Les obus atterrissent dangereusement près des Marines. Le caporal Wesley Plummer.
Beaucoup d'obus étaient lancés par les navires en mer. Des avions mitraillaient l'île sans relâche et larguaient des bombes au napalm à seulement quelques centaines de mètres de nous.
Les commandants américains suivent l'attaque depuis leur navire. À 8h30, ils font cesser le bombardement naval pour permettre aux Marines d'avancer. Mais malgré l'intense bombardement américain, la résistance des Japonais ne s'est pas atténuée. Les premières troupes à monter à l'assaut de la montagne sont décimées par le tir nourri des Japonais. On appelle la compagnie H en renfort.
Ils avaient tous des bandages ensanglantés. On avait planté leurs fusils dans le sol pour y accrocher des bouteilles pour faire des transfusions. On s'est dit que si on tentait de se rendre d'où ces types provenaient, on subirait certainement beaucoup de blessures.
Les hommes de la compagnie H se préparent à remplir leur mission quand ils sont pris au piège. Ils peuvent enfin voir l'ennemi en face. Il y a des centaines d'emplacements de tir sur la montagne. Les tireurs japonais font payer le prix fort à la compagnie.
Bob Norman a été abattu. Notre lieutenant a été touché. Tous deux par des tirs en provenance de la même position japonaise.
Le soldat de première classe, John Douglas.
Le feu ennemi qui nous atteignait le plus provenait d'un point précis sur le mont Suribashi. On pouvait les voir tirer depuis cet endroit. On était en difficulté. On ne pouvait pas bouger. Un char d'assaut est alors monté pour essayer de nous couvrir.
Les chars d'assaut Sherman sont armés de canons de 75 mm. Ils représentent toutefois un danger pour les Marines sur le terrain.
Les chars attirent toujours les tirs de l'ennemi. Et dans ce cas-ci, c'était des tirs de mortier. Et le char se trouvait juste derrière nous, tout près. On lui a fait signe de se déplacer parce qu'on recevait des tirs de mortier.
Le champ de vision de l'équipage du char d'assaut est limité en raison de l'étroitesse des ouvertures. Pour voir d'où provient le tir de mortier japonais, l'équipage devrait ouvrir l'écoutille du char, mais il s'exposerait ainsi au pire. Quant aux hommes de la compagnie, ils seront décimés si le char d'assaut reste près d'eux.
Il y avait un téléphone sur le char avec lequel on pouvait contacter le conducteur et l'équipage du tank.
Mais atteindre ce téléphone tient presque de la mission suicide.
C'était extrêmement dangereux parce que toutes les armes à feu japonaises visaient le char. Et quiconque utiliserait ce téléphone se prendrait sans doute une balle.
Le caporal Charles Johnson se porte immédiatement volontaire.
J'ignore ce qui m'a pris, je ne le sais vraiment pas. Mais je savais qu'on avait besoin d'une puissance de tir supérieure en direction des Japonais.
Si Johnson n'atteint pas rapidement le char d'assaut, les hommes de la compagnie H seront massacrés.
Il a fait ce qu'il avait appris lors de l'entraînement, c'est-à-dire aller vers l'arrière du char d'assaut. et il leur a indiqué où se trouvaient les Japonais.
Les hommes de la compagnie H espèrent que l'équipage du char d'assaut pourra détruire cet emplacement de tir ennemi avant que celui-ci ne prenne le caporal Johnson pour cible. Mais Johnson est touché. Il s'est sacrifié pour sauver les hommes de la compagnie H. Le brancardier secouriste Archie Williams risque sa vie à son tour pour sauver Johnson sous les yeux de son ami Jim Norton.
Je voulais aller le rejoindre, mais c'était impossible. Je savais qu'il n'était pas trop mal en point parce qu'il pouvait encore marcher.
Grâce à l'héroïsme de Johnson, le char d'assaut trouve enfin la cible.
Je n'en ai pas fait davantage que les autres sur cette île, croyez-moi. Il y a beaucoup d'hommes qui en ont fait tout autant, sinon plus. Je me suis trouvé au bon endroit, au bon moment. C'est tout.
Le caporal Johnson est évacué vers la plage où il retrouve un de ses amis de la compagnie H qui a été grièvement blessé par un tir de mortier. Même si ces deux blessés ne sont plus sur la ligne de combat, ils ne sont pas encore en sécurité. Thomas Brown, médecin de la marine américaine.
Plusieurs hommes ont été tués par le feu ennemi pendant qu'ils attendaient d'être évacués de l'île.
Johnson et son ami sont bientôt évacués pour être soignés sur un navire hôpital au large des côtes d'Iwo Jima. Pendant son séjour à bord, Johnson peut mesurer l'impact dévastateur de l'invasion américaine sur l'île. Les victimes sont nombreuses. Le pont est couvert de cadavres de Marines. Et l'ami de Johnson en fait partie.
Ils ont demandé à tous les gars qui pouvaient se déplacer de venir assister à ses funérailles. On devait jeter son corps à la mer. Ils ont placé son corps recouvert du drapeau américain sur une plaque et ils ont récité des prières. Ensuite, ils ont soulevé la plaque et laissé glisser son corps dans l'océan. J'ai entendu l'eau éclabousser. C'était difficile d'assister à un tel service. Ça faisait si mal que j'ai peine à l'expliquer. Mais cela m'a fait extrêmement mal.
Vous devez éviter de penser que vous serez peut-être aussi jeté à la mer. C'est froid, la mer. Et ça n'a rien de drôle. Mais ils ne pouvaient pas garder les corps de ces hommes jusqu'au moment où ils pourraient les mettre en terre. Je crois que c'est terrifiant de savoir que vous risquez d'être jeté à la mer comme ça.
Sur Iwo Jima, les hommes de la compagnie H livrent toujours un combat féroce au pied du mont Suribashi. Les lieux n'offrent aucune couverture. Ils sont à découvert devant les emplacements de tirs japonais à flanc de montagne. La compagnie subit de lourdes pertes.
Le deuxième jour, on a perdu notre lieutenant. C'était lui qui devait mener le peloton et qui connaissait les plans de bataille et tout le reste, et il n'était plus là. C'est un sergent qui a dû prendre la relève. Plus tard, c'est un caporal qui s'en est chargé. C'est une qualité que nous, les Américains, avons, je crois. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à reprendre le flambeau, même s'il n'est que simple soldat. On n'abandonnera pas parce que le commandant n'est plus là.
La progression du 28e régiment de Marines est laborieuse et sanglante. En gravissant le mont, les hommes doivent détruire les abris japonais construits à même la montagne. Chaque mètre parcouru par les hommes est durement gagné. Le soldat de première classe, John Douglas.
Il nous fallait parcourir environ 900 mètres pour traverser cette île.
et on a mis 3 jours à parcourir cette distance. C'était terriblement lent. On était plus souvent cloués au sol que debout à avancer.
Le nombre de victimes augmente à mesure que le 28e régiment gravit la montagne. Au pied du mont Suribashi, la compagnie H est piégée sous le feu croisé.
J'avais ma mitrailleuse et il y en avait une autre dans le trou où je me trouvais, provenant d'une autre escouade. Le chef de l'escouade m'a dit que l'un de nous devait partir parce qu'il y avait une trop grande force de tir dans ce secteur. Comme j'étais avec le bon groupe, c'est lui qui est parti. Ce jeune homme a été touché d'un projectile de calibre 25 qui lui a perforé la gorge. Ses yeux se sont révulsés et il est mort. On commençait vraiment à se demander qui serait le prochain, parce qu'on n'était plus que 6 ou 7 gars à n'avoir subi aucune blessure, sur un total de 45 hommes.
À mesure que le 28e régiment se rapproche du sommet de la montagne, la résistance japonaise s'intensifie.
Ça empirait à chaque jour.
Après seulement quelques jours de combat, les Marines souffrent d'épuisement et de manque de sommeil. Les dures journées qui ont précédé commencent à avoir un lourd impact sur les hommes. Ils ne voient que très rarement l'ennemi. Quand ils se retrouvent devant les Japonais, ils n'ont que quelques secondes pour réagir. La moindre hésitation pourrait leur coûter la vie.
Je n'ai pas pu utiliser ma mitrailleuse parce qu'elle était pleine de cendres volcaniques. Et le pire, c'est que j'avais mis un soin méticuleux à la nettoyer jusque-là. Elle ne fonctionnait que la moitié du temps. Les Japonais se sont couchés au sol, tout comme nous, et la grenade a alors explosé. Larkin l'a alors tué. J'ai dit à Larkin que j'avais été touché. Il m'a alors répondu quelque chose d'assez drôle. Il a dit « Ne meurs pas ici, Doug ». Il a ajouté « Sors de ce trou ». Je savais que je devais sortir de ce trou et trouver de l'aide.
Le brancardier R.K. Williams se trouve dans un trou non loin de là avec le soldat Jim Norton. Les secours ne sont qu'à 10 mètres de là, mais Douglas est grièvement blessé aux jambes. Il devra ramper à découvert pour atteindre l'autre trou.
Corbin, get him!
Il parvient à s'y rendre.
Get out of the hole, I need room. I'm here, I need room. Get
out of the hole! Arky m'a donné de la morphine. Il est resté dans le trou avec moi pendant toute la nuit. Il ne m'a pas laissé. Il est resté là, à côté de moi. C'était un héros. C'est mon héros.
Dès les premières lueurs de l'aube, des brancardiers transportent Douglas au poste de secours. Au moment où on soulève son brancard, il reconnaît son ami Charlie Bond à côté de lui.
Il faisait partie de la compagnie I et moi de la compagnie H. Il m'a dit de prendre soin de moi et de me remettre rapidement. Mais lui, il n'a pas survécu.
L'assaut du 28e régiment de Marines du mont Suribashi est au point mort. La résistance japonaise est si forte que les hommes ne peuvent plus avancer. Le nombre de victimes continue de s'accroître. Le soldat de première classe, Bill Nichols,
Le 28e régiment complet entourait le mont Suribachi. La compagnie H se trouvait au milieu d'une ligne brisée autour de la base du mont.
Une fois de plus, la compagnie est décimée par un puissant tir d'artillerie en provenance du sommet. On augmente la puissance de tir de la compagnie. Le soldat Nicholas reçoit l'ordre d'aider le char d'assaut à diriger le tir.
Quand j'ai saisi le téléphone, les Japonais se sont mis à tirer des obus et des mortiers à l'endroit où l'on était. L'un d'eux a explosé quelque part derrière moi et j'ai reçu des fragments dans la jambe. De plus, un éclat m'est entré dans le nez et pointait vers mon œil.
On met le soldat Nicholas dans la même péniche qui a servi au débarquement des Marines. Pendant qu'on l'emmène au navire hôpital, il a une vision inoubliable.
Je me suis soulevé de ma civière, car tout semblait s'être arrêté. Je me rappelle m'être penché sur le côté et avoir demandé en criant « Que se passe-t-il ? » Et l'on m'a dit de regarder vers l'île, que je comprendrais. J'ai alors regardé le mont Suribachi et j'ai vu notre drapeau se hisser à son sommet.
Les hommes du 28e régiment de la 5e division ont enfin réussi à atteindre le sommet du mont et à hisser le drapeau américain.
C'était extraordinaire de voir ça. Mais il y a beaucoup de nos hommes qui n'ont pas pu assister à ce moment. Ils ne pourront jamais le voir.
Au pied de la montagne, le caporal Wesley Plummer assiste à la scène.
J'en avais les larmes aux yeux. J'étais très ému. Après avoir perdu autant de camarades dans les jours précédant cette victoire.
Les Marines ont payé le prix fort pour planter ce drapeau au sommet du mont Suribachi. Plus de 5600 Marines ont été tués ou blessés lors des 5 premiers jours de la bataille. Les survivants, eux, ont trouvé un quelconque réconfort dans la victoire qu'ils ont remportée.
On pensait que c'était terminé. Tout le monde pensait qu'avec le drapeau américain hissé, c'était fini.
Mais les Marines ignorent que même s'ils ont conquis le mont, les Japonais occupent toujours des kilomètres de tunnels et d'abris sous leurs pieds et qu'ils sont prêts à tout pour défendre cette île. Le combat à venir ne pourra être que long. Et sanglant. Les Japonais continuent d'attaquer les forces américaines depuis un réseau de tunnels et de cavernes fortifiées, majoritairement situées à l'intérieur du mont Suribachi. L'aspirant de marine japonais Kiyoshi Endo.
Les Américains avaient peut-être conquis le mont Suribachi, mais ça ne nous a pas empêchés de leur infliger beaucoup de pertes. Le plan du général Kuribayashi de faire creuser des tunnels a été efficace.
Les Marines se dirigent vers le centre de l'île, au nord, où se trouvent les terrains d'aviation japonais. Les combats sont féroces. Au cours des 3 jours suivants, plus de 2400 Marines sont blessés ou tués. Le soldat de première classe, Jim Norton.
On se fait une certaine idée de ce qu'est un combat. Mais on ne pense jamais que ça se passera comme ça. On a subi d'énormes pertes. C'était l'enfer sur la Terre. C'était tout simplement effroyable.
Les Marines découvrent alors des centaines de cavernes reliées ensemble par des tunnels. Ils comprennent maintenant comment l'ennemi a pu rester invisible et leur causer des pertes aussi importantes. Ils essaient de se servir de prisonniers de guerre comme monnaie d'échange pour convaincre les Japonais de sortir des cavernes. Mais la plupart d'entre eux préfèrent mourir plutôt que de se rendre. Les forces américaines incendient alors les cavernes et les tunnels au napalm. Le sergent-maître Kai Kanai.
Quand on s'est enrôlé, on savait déjà qu'on se battrait jusqu'à la mort pour notre pays. On nous avait dit que si on était fait prisonnier de guerre, on serait abattu. On n'avait donc pas le choix.
On est descendu dans quelques-unes de ces cavernes. Pour être tout à fait honnête, ça nous faisait un drôle d'effet d'être là, parce qu'on ignorait s'ils ne surgiraient pas tout à coup. On ignorait où ils étaient. On n'est pas resté très longtemps dans ces cavernes. On regardait tout autour s'il y avait quelqu'un, puis on scellait les lieux.
Au début de la deuxième semaine de combat, il y a une brève accalmie. Les Marines en profitent pour se reposer et écrire à leurs proches. Toutes les communications en partance de l'île sont contrôlées et les lettres destinées aux proches doivent être imprécises et brèves.
Dans une lettre que j'ai écrite à ma mère le 26 février 1945, je dis « Chère maman, les combats ont été féroces, mais j'ai réussi à m'en tirer. Les 8 derniers jours ont été plutôt mouvementés. »
J'ai dit à ma mère qu'on allait bien et qu'on se trouvait à Iwo Jima. C'est tout ce qu'on m'a permis d'écrire. C'était une lettre très courte.
Après tant de jours passés au combat, les hommes se sentent bien loin de la maison et de toute perspective d'un bon repas chaud. Les Marines reçoivent des rations de cigarettes, de craquelins et de conserves de viande. Le docteur Thomas Brown a découvert une façon originale de cuisiner à Iwo Jima.
On se trouvait dans un secteur d'Iwo Jima où le sol était chaud à cause de l'activité volcanique. On faisait cuire nos rations au-dessus de trous d'où s'échappait de la vapeur.
La vie est beaucoup plus facile à bord du navire hôpital ancré au large des côtes de l'île. À bord, les Marines blessés sont loin des conditions de vie misérables des hommes sur l'île. Mais pour plusieurs Marines blessés, le combat n'est pas encore terminé. Après 3 jours à bord, le soldat de première classe Bill Nicholas reçoit de nouvelles consignes.
Quand ils ont déterminé que l'éclat d'obus n'avait pas endommagé mon œil, ils m'ont jugé apte à retourner sur l'île. Et on a refait les manœuvres encore une fois. En compagnie d'autres hommes qui étaient arrivés à bord de la même péniche que moi au navire hôpital, j'ai enjambé le bastingage et je suis monté dans une péniche pour retourner sur la plage.
Nicholas est replongé au cœur du combat. Sa première mission consiste à localiser son unité. Ce n'est pas une tâche facile. Les Marines sont dispersés sur l'île dans toute sa largeur.
J'ai fini par les rejoindre. J'ai reconnu l'un de mes compagnons d'armes et je lui ai demandé où se trouvait la compagnie H. Il m'a dit « Tu y es ». J'avais retrouvé mon groupe.
12 jours se sont écoulés depuis le débarquement. Les derniers hommes de la compagnie H se dirigent vers le nord pour aider à la prise complète de l'île. Les 3e et 4e divisions se sont emparés du 2e terrain d'aviation. Les hommes de la compagnie H se déplacent sur leur flanc gauche. Quand les Marines convergent vers le nord de l'île, les combats s'intensifient. Les troupes japonaises sont de plus en plus désespérées.
On se trouvait dans la partie nord de l'île. Bien sûr, le commandement de notre peloton se trouvait derrière la ligne, ce qui signifiait que si les Japonais arrivaient par derrière, on serait coupé des autres. Tout à coup, ils ont surgi par derrière. Ils arrivaient vite. Ils couraient et criaient en brandissant leurs drapeaux.
L'aspirant de marine Kiyoshi Endo.
Pour leur dernier assaut, les officiers japonais ont mené la charge en brandissant leur épée. C'était pour une question d'honneur de charger ainsi l'ennemi avant de mourir.
Ça s'est terminé assez rapidement, peut-être 5 ou 10 minutes plus tard. Je n'ai plus vu d'autres Japonais en vie par après. J'en ai vu plusieurs morts, mais pas en vie.
Le commandement qui a planifié la bataille d'Iwo Jima avait estimé qu'elle ne durerait que 3 ou 4 jours. Mais après 2 semaines de combats incessants, ce n'est pas encore terminé.
On est sans espoir quand on se trouve dans une telle situation. On se dit qu'on ne s'en sortira jamais. En tout cas, moi, je me sentais comme ça. Je pensais que je ne quitterais jamais cette île. On ignorait quelle serait la suite des choses, parce que les Japonais, eux, n'abandonnaient pas. Ça, c'était indéniable.
Jusqu'ici, 12 000 Marines ont été tués ou blessés.
Quand tous vos amis sont partis, vous vous demandez quand ça sera votre tour. La solitude se fait sentir beaucoup plus que vous ne l'auriez imaginé.
Les hommes de la compagnie H du 28e régiment essaient de poursuivre leur route vers le village de Nishi, qui se trouve plus au nord. Ils se dirigent vers le nouveau poste de commandement japonais. La lutte s'intensifie. Les Marines ne peuvent toujours pas voir l'ennemi, mais ils soupçonnent les Japonais de se trouver juste de l'autre côté de la colline.
On était protégés par des pierres, mais on savait bien qu'il fallait continuer d'avancer. En atteignant le sommet de la colline, l'un de nous a vu l'ennemi et demandé si l'on avait des grenades. Je lui en ai alors donné quelques-unes.
Les grenades constituent la meilleure arme pour neutraliser l'ennemi le temps de franchir la colline. Mais l'ennemi a lui aussi des grenades.
Je n'ai pas pensé que c'était une grenade. En tout cas, ça n'y ressemblait pas. J'aurais dû m'en apercevoir, mais ça n'a pas été le cas. Après 14 jours de combat, vous n'êtes pas aussi vif d'esprit qu'à l'arrivée. Et j'ai été touché.
Une grenade blesse grièvement le soldat de première classe, Jim Norton, à la jambe droite. Les Japonais poursuivent leur contre-attaque et repoussent les hommes derrière la colline. Les Marines sont forcés de laisser le soldat Jim Norton dans un trou d'obus jusqu'au moment où ils reprendront le contrôle de la colline. Le soldat Norton est seul dans le No Man's Land. Il est piégé entre les 2 lignes de tir et il souffre atrocement. Le brancardier Archie Williams devra affronter le feu ennemi pour venir en aide à Norton. Si Archie attend trop longtemps, Norton risque de mourir vidé de son sang. N'écoutant que son courage, il se dirige vers la ligne ennemie pour secourir son compagnon.
Ce n'était pas un inconnu pour moi. Je connaissais ce brancardier. J'avais passé la dernière année et demie avec lui. On était de vrais copains. Je crois qu'il m'a donné une dose de morphine, mais je n'en suis pas sûr. Il allait faire autre chose quand il s'est redressé et qu'il a dit « Oh, je suis touché ». Je lui ai demandé s'il voulait que je lui donne de la morphine, et il a dit oui. J'ai dit que je ne savais pas comment faire, il m'a montré. Ensuite, il a dit « Je dois y retourner ». Et j'ai répondu « Non, reste ici, ils savent où on est. Ils vont venir nous chercher. » Il a dit « Non, j'y retourne ». Et il est parti malgré mon désaccord. J'imagine que je ne voulais pas être seul. En retournant, il a aperçu un autre blessé qui avait sans doute été touché en même temps que moi.
Arki est touché de nouveau. Cette fois, la blessure est fatale.
C'était un type ordinaire qui ne faisait que son devoir. Les Américains sont souvent comme ça. Ils font ce qui doit être fait. Et c'est ce qu'on a fait. Mais c'était un type formidable. Il est parti très vite.
Arki mort, le soldat Jim Norton est de nouveau seul dans le No Man's Land et sa jambe saigne abondamment.
Je ne pouvais même pas bouger, parce que si je faisais le moindre geste, le tireur d'élite japonais qui tirait tout autour finirait par me toucher. Je devais rester dans le trou et faire semblant que j'étais mort, parce que sinon je serais tué. Je suis resté seul à cet endroit pendant 12 heures, ou peut-être plus. Puis le tireur d'élite est enfin parti. Il faisait noir, et j'ai appelé à l'aide. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit, car je ne me souviens de rien.
C'est alors que Jack Burns, un ami de Norton, reconnaît sa voix.
Norton, is that you?
Je me rappelle avoir entendu Jack Burns me demander de continuer de parler pour qu'il puisse me repérer.
Pour atteindre Norton, le sergent Burns et d'autres Marines doivent ramper jusque dans le No Man's Land à découvert, directement sous le nez des Japonais.
Ils ne savaient pas où ils allaient. Mais ce qui est indéniable, c'est qu'ils ont mis leur vie en péril pour venir me chercher. Ils auraient dû recevoir une médaille pour s'être ainsi aventurés dans cette zone pendant la nuit. Les soldats allaient toujours chercher les blessés. Et s'ils le pouvaient, ils ramenaient aussi les morts. Je crois qu'ils m'ont ensuite mis à bord d'une jeep pour me transporter à un poste de secours.
Les amis de Norton l'ont sauvé des Japonais, mais sa vie est encore en danger. Thomas Brown, médecin de la marine américaine.
Le poste de secours n'était pas protégé. Certains médecins ont été touchés. L'un d'eux a été tué, à ce qu'on m'a dit, mais c'est le seul, je crois. Quelques-uns étaient blessés assez grièvement pour ne plus pouvoir travailler. Parfois, c'était très intense. Je me souviens qu'on a dû soigner jusqu'à 92 blessés sur une période de 2 heures.
Pour les médecins du poste de secours, Norton est dans un état critique.
Je crois qu'ils ont essayé de me redresser la jambe. Ils m'ont demandé si je la sentais toujours et j'ai dit non.
Chaplain, come here.
Here you go. Hey, le prêtre est venu me donner les derniers sacrements. J'étais alors passablement sonné car j'avais perdu beaucoup de sang.
Pendant que Norton lutte pour sa vie, ses compagnons continuent de gagner du terrain. Après 2 semaines, ils se sont emparés des terrains d'aviation, mais ils ont payé ces gains très cher. Ils mesureront toutefois bientôt à quel point il était important de prendre le contrôle de l'île. L'équipage du bombardier B-29 Dynamite revient de Tokyo après y avoir largué des bombes. La trappe de la soute à bombes ne se referme plus, ce qui demande à l'appareil plus de carburant pour fonctionner. En outre, la soupape du réservoir de carburant est bloquée. Pendant que les Marines se battent sur la partie nord de l'île, le bombardier fait un atterrissage d'urgence. 30 minutes plus tard, l'appareil a été réparé et il quitte Iwo Jima. L'équipage de 11 personnes a eu la vie sauve. À partir de ce moment, les avions de ravitaillement américains se servent régulièrement des pistes d'atterrissage d'Iwo Jima, même si les Japonais résistent toujours dans le nord de l'île. Plus on se rapproche du centre de commandement de l'île, plus les Japonais sont poussés dans leur dernier retranchement. Les forces impériales sont maintenant concentrées dans les 3 derniers kilomètres carrés de l'île. Le caporal Wesley Plummer.
On se trouvait dans la partie nord de l'île et les Japonais nous opposaient une résistance féroce. On a fait appel à des mitrailleurs.
Pour couvrir les Marines qui avancent, les mitrailleurs se positionnent à des endroits surélevés qui n'offrent aucune protection. Ils protègent les Marines avec un feu nourri.
J'étais conscient du danger que je courais en m'installant ainsi sur un promontoire. Mais c'était nécessaire pour protéger nos pelotons.
Même si un homme vient d'être abattu à l'endroit où Plummer doit installer sa mitrailleuse, il n'hésite pas une seconde.
J'ai gravi la pente et j'ai installé ma mitrailleuse. Je pouvais entendre les projectiles siffler tout autour de moi.
La mitrailleuse de Wesley Plummer va aider le peloton à avancer, à condition que le caporal ne soit pas abattu.
On installait nos mitrailleuses aux endroits d'où l'on pouvait offrir le maximum de protection à nos hommes. On ne pensait pas à soi dans ces moments-là, mais aux hommes que l'on protégeait. J'ai tiré de cet endroit pendant quelques heures. Par chance, je n'ai pas été touché. Grâce à mon tir, aux tirs de mortier et aux autres mitrailleurs, notre compagnie a pu continuer d'avancer, traverser un ravin et gagner l'autre côté.
Pendant que la bataille se poursuit, certains Marines prennent une petite pause. Ils ont alors une livraison surprise. Le soldat de première classe, Bill Nicholas.
On nous a avisé qu'on avait reçu du courrier. On s'est dit que c'était un miracle que d'être à Iwo Jima, au cœur d'une bataille impitoyable, et de recevoir malgré tout du courrier. Ma lettre provenait d'Alan P. Burkhardt, mon directeur d'études.
Hey, sir. More mail from the men?
No, sergeant, that's all we got today.
Et là, à ma grande surprise, j'apprenais qu'on m'accueillait au sein du club des meilleurs élèves. Mais ce que cela signifiait surtout, c'est que j'avais obtenu mon diplôme d'études secondaires. J'ai retiré mon casque et ma casquette de baseball, j'ai plié la lettre et je l'ai mise dans la doublure de mon casque. Ensuite, j'ai remis ma casquette et mon casque. Je venais de recevoir mon diplôme. Peut-être que ça me servirait un jour, mais pour l'instant, ça faisait partie du passé.
Après 23 jours de combat, les classes de l'école secondaire de Nicholas semblent très loin. Pour le moment, il est à l'école de la guerre. Une école où sa vie est constamment en danger.
Who goes there?
You coming in? Lincoln and Maple.
Il croit entrevoir trois Marines s'approcher de sa position. Mais l'un d'eux a l'air louche.
On a l'habitude de placer nos jambières par-dessus notre pantalon. Comme ça, elles sont bien ajustées autour de nos bottes. Mais ce type les avait mises à l'envers. On a presque tous crié en même temps qu'il n'était pas un Marine. Trois Marines ont tiré et l'ont abattu.
Comme les hommes le soupçonnaient, il s'agit d'un soldat japonais déguisé en Marine. Il est impossible de baisser la garde un seul instant, car l'ennemi est prêt à tout. Le lendemain matin, Bill Nicholas et son peloton continuent d'avancer vers le nord.
Vers le milieu de la journée, on a décidé de gagner encore un peu de terrain. On a parcouru une quinzaine de mètres.
Les hommes se dirigent directement dans un piège. des soldats japonais se cachent dans un trou.
Ça s'est déroulé en un éclair. J'ai été touché au bras gauche. Les deux hommes qui se trouvaient au centre ont été tués instantanément. Mon ami a eu une partie de la main gauche arrachée.
Les Marines ont appris à s'assurer qu'il ne reste plus d'ennemis à abattre avant de soigner un de leurs frères d'armes.
Il a dit, les deux autres hommes sont partis, ils sont morts. Je vais t'aider. Il m'a soulevé et m'a ramené à l'endroit où on était plus tôt. Et je ne me rappelle plus grand-chose, sinon que je n'ai ressenti aucune souffrance. Il y avait seulement beaucoup de sang.
Une fois de plus, Bill Nichols s'est évacué de l'île. Mais cette fois, il ne reviendra pas au front. Les Marines qui continuent de se rapprocher du nord de l'île sont bientôt coincés dans une gorge où les combats sont si intenses qu'on la surnomme « Bloody Gorge », la gorge sanglante. Le général de l'armée impériale japonaise, Tadamichi Kuribayashi, se trouve dans une situation sans issue. Ses troupes commencent à manquer de munitions et d'eau. Le sergent-maître Kai Kanai.
Notre condition physique se détériorait. On manquait de nourriture et d'eau. Comme on n'avait aucun pansement, on déchirait les uniformes des soldats morts pour panser nos blessures.
Il ne reste qu'un peu moins de 1000 hommes quand le sergent-maître japonais apporte un message au général Kuribayashi.
Le message provenait du sous-amiral Ichimaru. Il voulait qu'on joigne toutes nos forces à Taiten dans la partie nord de l'île. Il savait que ça serait notre dernière bataille.
Même si les troupes japonaises souffrent de la faim, aucun homme n'a envie de capituler. Après plusieurs semaines de combat, toutefois, les forces japonaises ne pourront plus guère opposer de résistance aux Américains qui gagnent sans cesse du terrain. La bataille d'Iwo Jima tire à sa fin quand les Marines découvrent ce qu'ils croient être le dernier retranchement du général Kuribayashi. Si le général et le reste du commandement japonais sont toujours à l'intérieur, ils ne survivront pas, comme nous le raconte le caporal Wesley Plummer.
Quand ils ont fait exploser ce bunker, la détonation a été énorme et très bruyante. J'ignore combien de milliers de kilos de poudre ont été utilisés, mais le bruit a vraiment été assourdissant.
Certains Japonais croient que le général Kuribayashi a été tué lors du dernier affrontement avec les Américains ou alors qu'il a mis fin à ses jours peu de temps auparavant. On n'a jamais retrouvé son corps. Pour les Japonais, la fin de cette bataille a éveillé des émotions contradictoires. L'aspirant de marine japonais Kiyoshi Endo.
Les jeunes soldats qui tremblaient de peur avant le combat, prêts à affronter une mort certaine, on pleurait de douleur en apprenant la nouvelle. Cette défaite les atterrait. Seuls les soldats plus âgés étaient soulagés.
Certains soldats japonais éprouvent une haine sourde envers leur chef, et plus particulièrement envers le premier ministre Hideki Toyo, l'aspirant de marine Seiya Oide.
Je ne pardonnerai jamais à Toyo. Il a mené ses hommes au désastre. Pendant ce temps, il menait une vie luxueuse à Tokyo. Encore aujourd'hui, je refuse de lui pardonner.
Je savais.
Maintenant que la bataille est terminée, les Marines qui ont conquis l'île seront relevés par de nouvelles troupes. En retournant vers la plage, ils croisent un cimetière où sont enterrés des milliers de leurs compagnons.
Tout le secteur où nous avions combattu était recouvert de croix blanches. C'était toutes les victimes américaines, mortes sur l'île.
Au cours de la bataille de 36 jours, plus de 6000 Marines ont péri.
On a organisé un service commémoratif pour la 5e division. L'émotion était à fleur de peau. Je me sentais très mal pour tous ces camarades qui avaient été tués, tous les amis que j'avais perdus. Mais j'espérais qu'il n'y aurait plus jamais de bataille comme celle d'Iwo Jima.
Lors de cette bataille, la compagnie H du 28e régiment a perdu 82% de ses effectifs. À son arrivée, la compagnie comptait 240 Marines et 6 brancardiers secouristes. À son départ, elle ne comptait plus que 43 hommes. Il faudra du temps à ceux-ci pour se rendre compte que l'horreur est bel et bien terminée. Le soldat de première classe, Clay Coble.
Still, we were not really
On a été sûr que tout était terminé que lorsqu'on est monté à bord du navire. À mesure que l'île disparaissait au loin, on ressentait une grande joie parce qu'on partait enfin. Notre vie n'était plus en danger.
Même si les Marines rentrent chez eux, il reste encore des soldats japonais sur Iwo Jima, comme le sergent-maître Kei Kanai, qui reste caché sur l'île pendant des mois et qui mange ce qui lui tombe sous la main.
On s'introduisait clandestinement dans les camps ennemis pour y voler de la nourriture. Les rations américaines étaient bonnes comparativement aux rations militaires japonaises.
Puis un soir, le sergent Kanai entend une voix familière.
Quelqu'un m'a appelé par mon nom. C'était un marin du corps des communications. Il m'a demandé de sortir de ma caverne en me promettant de me conduire dans un endroit sécuritaire. Il voulait que je lui donne mon pistolet et ma grenade. Je lui ai obéi. Comme j'étais trop faible pour sortir de ma caverne tout seul, je lui ai tendu la main et il m'a aidé.
Des Marines l'attendent.
Je croyais que c'était la fin pour moi. On nous avait dit que si on était fait prisonnier, on serait abattu. Mais les Marines m'ont alors aidé. Ils m'ont transporté à leur poste.
Le sergent-maître Kei Kanai fait partie des 250 Japonais faits prisonniers. Les autres hommes sont morts au combat. L'aspirant de marine Kiyoshi Endo.
Le nombre de victimes japonaises s'élève à plus de 20 000 personnes. Du côté américain, il y en a eu 6 000 et environ 20 000 blessés. Le nombre de victimes japonaises était supérieur parce que les Américains, eux, secouraient et soignaient leurs blessés. Plus de soldats japonais auraient sans doute survécu si on les avait soignés. Mais comme c'était impossible, ils sont tous morts.
À cause du nombre important de victimes américaines, les hôpitaux militaires du Pacifique sont bondés. Le soldat de première classe, Jim Norton, est soigné à Guam. Dès qu'il le peut, il demande à une infirmière de l'aider à écrire une lettre à ses proches. Les nouvelles qu'il leur transmet ne sont guère joyeuses.
Dear Mom.
Chère maman, tu as sans doute reçu ma lettre du 26 février, alors que j'étais au combat. Et tu sais à quel point on était occupés. Tu comprendras que je ne pouvais pas t'écrire aussi souvent que d'habitude. Mais tu sais bien que je pense toujours à toi. J'ai eu beaucoup de chance.
J'ai écrit à toi, mais le going got tougher. Et j'ai été wounded 2 weeks ago today.
En repensant à tout cela, pendant que j'étais alité, j'ai pensé que tu voudrais savoir ce qui est vraiment arrivé. J'ai été touché par un tir de mortier japonais et mon pied et ma cheville ont subi une fracture ouverte. Apparemment, une infection s'est déclarée et les médecins du poste de secours ont décidé de m'amputer la jambe droite. Je souhaite ardemment te rassurer et te dire que ça ne m'inquiète pas le moins du monde. Je considère que j'ai de la chance d'être encore en vie. Et j'ai hâte de rentrer à la maison pour de bon. Au revoir. Dieu te bénisse. Tout mon amour, Jim.
Tous les Marines qui en sont encore capables vont devoir se préparer à une bataille qui promet d'être encore plus sanglante.
On est remonté sur le navire en direction de Hilo à Hawaï, où se trouvait notre camp. On se préparait à envahir le Japon. On croyait tous qu'on aurait beaucoup de chance si on débarquait au Japon et qu'on survivait à ça. De mon côté, je n'étais pas très optimiste. Je me disais que j'avais épuisé tout mon capital de chance à Iwo Jima.
J'étais sûr que ça durerait pendant des années après avoir vu comment c'était à Iwo Jima. Ils n'avaient jamais abandonné et ils n'abandonneraient jamais. Il y avait une différence entre débarquer sur une de ces îles japonaises et dans l'archipel du Japon lui-même. On était persuadés que ce serait horrible. On n'avait jamais entendu parler de la bombe atomique qui allait mettre un terme définitif à cette guerre.
Le 6 août 1945, les États-Unis larguent une bombe atomique sur la ville industrielle d'Hiroshima. Ils recommencent 3 jours plus tard à Nagasaki. L'aspirant de marine japonais, Kiyoshi Endo.
Il est atroce de tuer autant de gens avec une seule bombe. Mais à ce moment-là, le Japon se préparait à continuer à se battre, même si cela signifiait la mort de 100 millions de Japonais. Bien que la mort des victimes d'Hiroshima et de Nagasaki m'attriste, je crois que par leur sacrifice, elles ont sauvé le peuple japonais.
Le 2 septembre 1945, les Japonais se rendent aux autorités américaines. Cette guerre a coûté la vie à 300 000 Américains et à plus d'un million de Japonais. Un coût en vies humaines colossal. Mais la Seconde Guerre mondiale est enfin terminée. Le soldat de première classe, Bill Nichols.
C'était bon de savoir que les hostilités étaient terminées. On avait accompli notre mission. La guerre était finie et c'était maintenant le temps de rentrer à la maison et de revenir à la vie civile.
Mais la transition sera difficile pour les victimes d'Iwo Jima.
Tous les amputés demeurant à l'est du Mississippi devaient se rendre à l'hôpital de la marine à Philadelphie. L'établissement allait devenir le quartier général des amputés de guerre.
Les vétérans doivent participer à une tournée qui permettra au peuple américain de pouvoir enfin voir les héros d'Iwo Jima.
On m'a annoncé qu'on s'arrêterait à Chicago. Ma mère devait venir me rejoindre dans le train. Tous les médias étaient présents. Il y avait des journalistes et des photographes. Des photos de ma mère et moi ont paru, entre autres, dans le Chicago Tribune et dans le Sun Times. C'était bon de la voir après tout ce temps. J'avais été absent pendant quelques années.
Les Marines sont accueillis chaleureusement à Chicago. Mais l'aventure qui suit sera pénible pour les hommes les plus grièvement blessés. Ils ne sont pas prêts à ce qui les attend dans une petite ville de Pennsylvanie. Les hommes et les femmes venus les accueillir au train sont bouleversés en voyant le prix payé par les soldats américains pour une petite île dont ils n'avaient jamais entendu parler.
Personne ne voulait voir ça. Tous ces types qui descendent du train avec une seule jambe ou les deux bras coupés. Ça a été tout un choc. Ils sont retournés dans la gare. Ils étaient incapables de faire face à la réalité et je ne peux pas les blâmer.
De nombreux Américains sont perturbés par les épreuves endurées par les Marines à Iwo Jima. Mais pour les hommes de la compagnie H, ce sacrifice était nécessaire.
On était tous de jeunes Marines enthousiastes et on voulait accomplir la mission pour laquelle on avait été formé. Pour ma part, je crois qu'on a fait du bon boulot à Iwo Jima.
Pour sa bravoure sous le feu ennemi, Wesley Plummer a été décoré de l'étoile d'argent. Pour avoir participé à la destruction d'une position de tir de mortier ennemi, Charles Johnson a également reçu l'étoile d'argent. Parce qu'il a fait l'ultime sacrifice de sa vie pour sauver Jim Norton ainsi qu'un autre Marine, Jack Arkey Williams a reçu la médaille d'honneur du Congrès à titre posthume.
La liberté a un prix, vous savez. Beaucoup de gens la tiennent pour acquise, mais ils se trompent. On a dû se battre pour conserver notre liberté, et on devra sans doute continuer à se battre longtemps pour la conserver.
La liberté coûte cher. Elle n'est pas facile à acquérir. Je referai tout ce que j'ai fait. Je m'enrôlerai de nouveau dans le corps des Marines.
Je suis fier d'avoir pris part à cette bataille et je ne voudrais rien en échange de cette participation, pas même $1 million, et ce, même si j'avais besoin d'argent.
En raison de l'énorme sacrifice qu'ils ont fait au nom de la liberté, la plupart de ces hommes n'ont plus jamais regardé le drapeau américain de la même manière.
J'ai du mal à assister à une partie de hockey. J'aime bien le hockey. Quand ils font jouer l'hymne national, je retiens mes larmes chaque fois, car ce drapeau signifie réellement quelque chose pour moi.
Je suis en colère quand je vois à la télévision ou que j'apprends par les journaux que des gens ont brûlé le drapeau américain. Je n'ai jamais assisté à ça, et j'espère ne jamais le voir, parce que ça serait très dur pour moi. Tant de gens ont péri pour acquérir cette liberté.
Avec les hommes de mon escouade, on a conclu un pacte. On s'est juré, si on devait s'en sortir vivant, de ne pas se sentir coupable en pensant aux victimes de cette bataille. Il faut continuer à vivre et ne pas gaspiller le temps qui nous reste.